Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans De Grain à Moudre, notre dernier rendez-vous de la semaine. Ce soir, pourquoi les femmes doivent-elles toujours se battre pour leurs droits ? Les femmes peuvent désormais accéder à tous les postes au sein de l'armée américaine, y compris aux postes de combat type commando. C'est ce qu'annonçait hier le ministre américain de la Défense. Ajoutons tout de même qu'il faudrait attendre quelques mois, voire quelques années, avant d'envisager le déploiement sur le terrain de soldates d'infanterie ou de conductrices de chars. Le plus gros défi, estime le général David Perkins, risque probablement d'être un faible nombre de volontaires. C'est que celles-ci ne seront sans doute pas les bienvenues dans ce bastion de la virilité que sont les unités de combat. Autre pays, autre domaine dans lequel la question de l'égal accès à des postes ou des fonctions est en train d'évoluer à petits pas, l'Arabie Saoudite. Élection municipale demain, près de 7000 candidats, dont 900 femmes. Une grande première dans ce pays, l'un de ceux au monde où les femmes sont le plus soumises au bon vouloir des hommes. Petits et grands combats féministes, les exemples ne manquent pas dans l'actualité. On aurait tout aussi bien pu évoquer le cas de la France, avec ce débat récent autour de la taxe tampon. Et ce qui ne laisse pas d'étonner, c'est la solidité des résistances face à ces revendications. Alors pourquoi les femmes doivent-elles toujours se battre pour leurs droits ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, deux invités ce soir. Florence Monreno, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, écrivaine, militante féministe. Vous l'avez été au sein du MLF, du planning familial. Vous êtes à l'origine du mouvement Les Chiennes de Garde. Vous avez publié l'an dernier aux éditions Erol, Chaque matin, je me lève pour changer le monde. Ouvrage sous-titré du MLF aux Chiennes de Garde, 40 ans de féminisme. Pour discuter avec vous, Peggy Sastre, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur en philosophie des sciences, journaliste. On peut retrouver vos écrits sur un certain nombre de sites, de temps en temps sur l'Obs d'ailleurs, je crois.
Tout à fait.
Toutes les semaines. La domination masculine n'existe pas. Bon, on demandera tout à l'heure à François Armanet, puisqu'on aura notre partenariat avec l'Obs en fin d'émission. La domination masculine n'existe pas, c'est le livre que vous signez aux éditions Anne Carrère, qui vient de sortir. Titre évidemment provocateur, ça vous ne le découvrez pas, avec un livre et un contenu qui ne l'est pas moins d'ailleurs, puisque dès les premières lignes, on peut notamment lire ceci: si les hommes ont le pouvoir, c'est parce que les femmes l'ont bien voulu, et ce tout au long des 99,98% de l'histoire de notre espèce, sachant que nous, aujourd'hui, nous sommes dans les 0,2%, mais on va avoir l'occasion de discuter tout ça. Mais je voudrais commencer peut-être par un petit tour d'horizon de l'actualité du droit des femmes, si je peux m'exprimer ainsi, et notamment donc ces municipales demain en Arabie Saoudite. Le fait que des femmes soient désormais autorisée à voter dans ce pays et à se présenter comme candidate. Florence Monreno, est-ce que vous y voyez l'avancée inexorable du droit des femmes, ou bien est-ce qu'au contraire vous vous dites les premières femmes à avoir eu le droit de vote, c'était en Nouvelle-Zélande à la fin du 19e siècle. Si longtemps après, comment se fait-il qu'on en soit toujours à presque s'étonner que des femmes n'aient pas les mêmes droits que les hommes, s'agissant en tout cas de ce domaine politique ?
Vous avez dit inexorable. Alors là, s'il y a quelque chose qui est exorable, c'est bien l'avancée des droits des femmes, parce que jamais ce n'est acquis. Les droits des femmes sont très fragiles. Les droits en général n'ont rien d'acquis. On l'a vu par exemple dans l'Espagne de Franco. Les droits ont été suspendus pendant 40 ans. Les droits des femmes ne sont jamais acquis, encore moins. Et là, maintenant, vous me dites que c'est un grand progrès pour l'Arabie Saoudite. Vous dites, en effet, mais il faut le saluer. Mais on pourrait aussi parler de la France et de son phénoménal écart entre le droit de vote dit universel, mais masculin, en 1848, et le droit de vote réellement universel en 1900. Personne ne sait, mais enfin bon, allez, vous savez, vous
44.
Bravo,
enfin, 44.
47, les premières élections.
21 avril 1944, c'est la date du droit de vote des femmes. C'est le moment où le suffrage devient vraiment universel. On n'apprend pas assez ça à l'école. Bon, 96 ans d'écart.
Voilà, 96 ans d'écart. Il faut préciser d'ailleurs que s'agissant de l'Arabie Saoudite, les hommes ont eu le droit de voter pour les municipales, puisque ce sont les seules élections qui sont autorisées dans ce pays, seulement en 2005. Donc finalement, il y a seulement 10 ans d'écart. Enfin, il y a quand même un certain nombre de problèmes du point de vue démocratique en Arabie Saoudite. En tout cas, sur le côté alors inexorable ou exorable, Peggy Sastre, est-ce que vous partagez ce que dit Florence Monreno ?
Je partage, oui, globalement, dans le sens où inexorable, rien n'est inexorable, parce que tout est question de contexte. Donc, en Arabie Saoudite, il y a un contexte qui fait que on va pas le préciser, et puis en plus je suis pas spécialiste de ces questions, qui fait que oui, les droits des femmes avancent, mais rien n'est inexorable, quoi.
Du point de vue de la théorie darwiniste, qui est celle sur laquelle vous vous appuyez, vous, pour faire vos recherches, Peggy Sastre, dans le livre, vous expliquez, par exemple, que donc, alors, ce fameux 0,2% que j'ai cité tout à l'heure, ça ne représente évidemment pas grand-chose par rapport à l'histoire de l'humanité. Et est-ce que, de ce point de vue-là, on peut considérer que tous les droits qui ont été acquis par les femmes, même s'ils sont fragiles, ne sont pas... Enfin, en tout cas, la période n'est pas suffisante sur la longueur pour juger justement de la solidité et de la pérennité de ces droits.
Oui, tout à fait, mais c'est aussi la période. C'est pas seulement nos droits, c'est pas seulement les droits des femmes qui sont fragiles. C'est aussi le contexte de prospérité et de sortie de la survie et qu'on a gagné. On a gagné 50 ans d'espérance de vie en très peu de temps, etc. Ça c'est extrêmement fragile. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'énergie se raréfie. Enfin, en fait. Toutes les infrastructures qui ont fait notre monde occidental et riche tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui ont donné la possibilité des droits des femmes, c'est très très fragile. Enfin, ça, Simone de Beauvoir le disait, il suffit d'une crise pour que tout s'annule, quoi.
Les conditions socio-économiques sont importantes pour permettre d'enraciner ou pas les droits des femmes, Florence Moreno, et peut-être aussi climatique, puisqu'on est en pleine fin de négociation de la COP21. En tout cas, voilà, le contexte extérieur joue évidemment sur ce que peut être l'avancée des droits des femmes.
Oh, l'avancée ou la situation qui donne, non, les droits ont toujours été arrachés. Les droits ne sont jamais donnés, ne sont jamais octroyés. Et même quand on parle de droits de vote des femmes en France, ce n'est pas, comme on le dit en général, le fait du prince, la grande magnanimité générale de Gaulle, dont c'est simplement du réalisme politique. En 1944, c'est vraiment très tard pour une démocratie de donner le droit de vote aux femmes. Et c'est après des combats féministes qui durent depuis 1848. On oublie, et en tout cas, moi quand je vais aller voter dimanche, j'y penserai comme j'y pense chaque fois. Je pense que des femmes se sont battues, qu'une femme en est morte, notamment. Emily Davison, je pense à elle chaque fois. Une des suffragettes britanniques dont le film Les Suffragettes retrace très bien l'histoire.
Voilà qui est à l'affiche en ce moment, hein.
Un film magnifique où on voit Emily Davison, enveloppée dans la bannière Votes for Women, se jeter sur la piste au Derby d'Epsom devant le cheval du roi. Elle n'avait pas prévu que le cheval allait la piétiner, qu'elle allait mourir de ses blessures. Mais voilà tout de même une femme qui a risqué gros, qui a perdu la vie. Il y a au moins une femme qui est morte pour que nous puissions voter. C'est à cet exemple-là qu'on peut montrer que les droits ne sont pas donnés. Les droits sont demandés, exigés, arrachés.
Mais je ne dis pas que les droits sont donnés, je dis juste qu'il y a des contextes qui font que ces combats sont plus, entre guillemets, facilement accessibles. Qu'à d'autres, je veux dire, au Moyen-Âge, il y a eu toute une époque, environ 100 ans, où les femmes ont pu avoir des guildes, ont pu avoir du travail, etc., étaient très autonomes, et après, ça s'est complètement annulé parce que d'autres contextes ont fait que c'était plus pertinent ou adapté, quoi.
Mais est-ce que vous seriez d'accord, Peggy Sastre, pour dire qu'il n'y a pas d'avancée du droit des femmes si celles-ci ne se battent pas pour les obtenir? Ou bien est-ce qu'il y a des droits des femmes qui arrivent de manière naturelle? Je ne sais pas si c'est comme
non,
ça qu'il
faut
dire.
Rien n'est naturel, je veux dire. Mais le truc sur lequel je voudrais aussi insister, c'est qu'on ne peut pas séparer, tout est systématique, dans le sens où il n'y aurait pas eu le féminisme tel qu'on le connaît aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la pilule, s'il n'y avait pas eu la machine à laver, tout ce genre de choses, quoi. Et ça, ce sont des écosystèmes qui font que le droit des femmes tel qu'on le connaît aujourd'hui a été rendu possible.
Florence Moreno.
Mais la pilule, c'est très récent, et les féminismes, ça date d'un siècle et demi.
Oui, mais pourquoi est-ce que le féminisme s'est accéléré quand la pilule a été créée?
Le féminisme, c'est pas accéléré. Alors là, je suis historienne, hein, je peux me permettre de vous dire que l'histoire des féminismes est très mal connue, devrait être enseignée beaucoup plus, parce que nous devrions savoir à qui nous devons ces droits. Combien ces femmes ont développé des stratégies intelligentes pour les obtenir,
hein.
Ça n'a rien à voir avec la pilule. C'est la maîtrise de la fécondité, dès la fin du 19e siècle, les néo-malthusiens développent des méthodes comme la cape cervicale, par exemple, parce qu'en effet, ça vous avez tout à fait raison d'y insister, c'est la fécondité qui est la clé de la liberté des femmes. C'est pour ça que le droit...
Et pas avec la même efficacité que la pilule.
Et le droit à l'avortement qui en est indissociable. C'est le droit...
Dans ce cas-là, la contraception, elle existe depuis l'Antiquité. Hein.
Oui, la contraception moderne avec la pilule et le droit à l'avortement, en effet, on produit de nouvelles générations de femmes qui maintenant ont accès à leurs désirs. C'est ça la grande nouveauté
et
de notre
peuvent,
époque.
Elles peuvent séparer très strictement et très techniquement et très sûrement reproduction et sexualité.
Voilà, ça c'est l'énorme progrès du dernier demi-siècle.
Tout à fait.
Mais les esprits ne sont pas encore assez préparés à ce changement. C'est possible techniquement, mais nous sommes encore prisonniers de conceptions anciennes. Et maintenant, nous allons bientôt voir arriver ce phénomène nouveau, ces générations nouvelles qui auront intégré que le désir n'est pas immédiatement suivi de être enceinte ou pas.
Alors, parce que vous évoquez ces questions de contraception et d'avortement, je voudrais revenir un petit peu à une actualité très chaude, disons, qui est cet entre-deux-tours des régionales, avec un des aspects du programme connu de la candidate du Front National pour la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui serait de supprimer les subventions au planning familial si elle est élue. C'est un projet qui est très contesté, y compris au Front National. Cela dit, on constate que, bien que ce projet soit connu, et pas seulement depuis quelques semaines, les femmes votent de plus en plus pour le FN. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on pose la question pourquoi les femmes doivent-elles toujours se battre pour leurs droits, qu'elles se battent peut-être moins aujourd'hui, qu'il y a une moindre appropriation du combat féministe, d'après vous, Peggy Sastre et Florence Moreno? Peggy Sastre d'abord.
Ça aussi, ça dépend de la perspective sur laquelle on se place, parce que certes, les femmes votent de plus en plus pour le Front National, parce que globalement, il y a de plus en plus de monde qui vote pour le Front National, mais les femmes restent à voter moins pour le Front National que les hommes.
C'est de moins en moins vrai, cela dit. Il y avait un écart de 6 en 2002, il est passé à 1,5 en 2012, l'écart entre les hommes et les femmes. Donc on voit que ça.
Oui, mais c'est un phénomène qui n'est pas seulement franco-français. Il y a eu des études qui ont été faites en Europe, aux États-Unis, etc., qui montrent que l'écart reste toujours, est toujours là, même si en effet il se resserre, mais les femmes votent moins pour les partis extrêmes de droite et de gauche que les hommes.
Florence Moreno.
Mais vous parlez des droits et de se battre pour les droits, mais très peu de personnes se battent pour des droits. Pourquoi allons-nous culpabiliser les femmes qui ne se battent pas? Mais qui se bat? La proportion de syndiqués en France est une des plus basses d'Europe. Qui a le courage de revendiquer collectivement pour des droits? Très peu de gens. Les militants, c'est un tout petit nombre de gens. Alors, peut-être elles n'ont pas pris la mesure des dangers. En effet, c'est très dangereux s'il n'y a plus de subventions au planning familial, parce que le planning familial, où j'ai milité pendant très longtemps, s'occupe en priorité des femmes pauvres, des femmes qui n'ont pas les moyens d'accès à l'information, à l'instruction, à tout. Le planning fait une action sociale vitale, politique vitale, parce que prendre sa vie en main, c'est ça la contraception et l'avortement, c'est grâce au planning que des millions de femmes ont pu le faire en France.
Bon, alors je ne vais pas m'intéresser à ceux et celles qui ne se battent pas pour leurs droits, mais plutôt à ceux qui se battent pour des droits. Il y a un collectif, une association qui a pas mal fait parler d'elle ces dernières semaines, ce sont les Georgette Sand qui ont fini par obtenir une baisse de la TVA sur les tampons pour les femmes. La TVA était à 20%. Elle est passée, alors après moult négociations avec le personnel politique, à 5,5%. Est-ce que ça, vous considérez, Florence Moreno, que c'est une victoire féministe? Et est-ce que vous comprenez qu'il ait fallu à ce point ferrailler pour obtenir cette baisse de TVA?
Je trouve ça superbe. Je trouve cette idée formidable. J'y avais jamais pensé, en effet, à faire la liste des biens de première consommation pour les femmes qui sont taxés de manière excessive par rapport à des biens de première nécessité qui ne le seraient pas. Et donc là, en effet, voilà, les tampons, voilà une tranche de la population qui est concernée par ça, et on lui applique le tarif du luxe. Alors, c'est une excellente idée. Alors, évidemment, tout ce vocabulaire que nous employons, comme se battre, ferrailler, victoire, combat, c'est pas tellement un vocabulaire que j'emploie d'habitude. Parce que il me semble que c'est plus adapté au monde de la polémique, de la politique, des bagarres. Alors que dans beaucoup de domaines, il n'y a pas de vainqueur et de vaincu. Nous avons tous à gagner à une amélioration de la situation, à une progression des droits.
Peggy Sastre.
Oui, là encore, je suis d'accord, mais là aussi, cette histoire de taxe tampon, donc les produits de première nécessité, quasiment personne n'a dit que, par exemple, papier toilette était aussi taxé à 20%, quoi. Et c'est un produit de première nécessité, pourquoi est-ce que personne ne s'est battu pour qu'il soit à 5%? Donc, moi, ce qui me dérange aussi un peu dans le féminisme actuel militant, c'est que y a un peu un focus qui est, à mon avis, un peu délétère, sur le combat, les militances. Et ce que je vois, par exemple, dans mon entourage de jeunes filles assez jeunes, qui ont entre 15 et 20 ans, c'est que dès que je leur dis « t'es féministe », elles se braquent. Elles n'aiment pas le mot, elles n'aiment pas ce que ça représente, etc. Mais dans
ça
leur
représente
vie,
quoi pour elles?
Bah, ça représente des trucs emmerdants, des filles qui crient, des manifestations qu'elles considèrent débiles, archaïques, etc. Alors que dans leur vie, elles le sont féministes. Elles prennent la contraception, elles veulent d'abord travailler et pas avoir forcément de mari, etc. Donc, je pense qu'il faudrait aussi voir que le féminisme et le droit des femmes progressent dans la mentalité des gens pragmatiquement, quoi. Après, qu'elles luttent ou pas, qu'elles soient syndiquées ou pas, pour moi, ça reste secondaire, quoi.
Florence Moreno.
Mais ça dépend de la définition qu'on donne à féminisme. Moi, je dis en général pour l'égalité des droits, pour l'égalité en dignité. Par exemple, les insultes sexistes adressées aux femmes, c'est inadmissible. Et il y a très peu de gens qui sont pour l'inégalité. Il y a très peu de femmes qui sont pour les salaires inférieurs des femmes. Donc, des exemples concrets sont plus faciles pour faire comprendre. Moi, je n'aime pas tellement employer le mot féminisme. C'est une étiquette. Il y a des femmes qui se disent féministes et à d'autres leur contestent ce nom. D'autres ont un comportement féministe et recusent le nom. Alors, moi, je pense qu'on est libre de dire ce qu'on met en général. On est pour l'égalité.
Alors, il y a effectivement des écarts de salaire moyens, hein, quand on parle d'écarts de salaire, entre les hommes et les femmes. Les derniers chiffres qu'on a trouvés, c'est celui de l'Observatoire des inégalités, qui fait état d'un écart. Les femmes gagnent en moyenne 76% du salaire des hommes. Et Peggy Sastre, alors vous, dans votre livre, vous dites notamment ceci. La formidable percée des femmes dans le monde du travail semble atteindre un plateau. Et quand vous évoquez l'écart de rémunération, vous dites qu'il est notamment lié au fait que les femmes ne valorisent pas autant l'argent que les hommes. J'aimerais que vous expliquiez un petit peu à nos auditrices et nos auditeurs ce que vous voulez dire par là.
Oui, tout à fait. Bah, ça a été des études. De toute façon, à peu près 20% de mon livre, c'est une bibliographie. Donc, comment dire, il faut serrer les choses et surtout, il faut complexifier les choses. C'est-à-dire que quand on dit que les femmes gagnent 77% de moins que les hommes, c'est vrai. Mais par exemple, si on va voir les femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ont la trentaine et la quarantaine, elles gagnent exactement pareil que les hommes. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que l'écart, il arrive avec la maternité. Et qu'en gros, si on veut vraiment résumer les choses, le premier obstacle à l'égalité salariale, c'est l'enfant, c'est les enfants.
Vous dites aussi que les hommes, parce qu'ils ont une approche de la reproduction qui est différente de celle des femmes, sont amenés à prendre davantage de risques, que le fait qu'ils prennent davantage de risques leur permet d'avoir des salaires qui sont plus élevés, mais également des salaires qui sont plus bas, et que les femmes se situent à peu près dans la moyenne, et qu'elles s'en sortent finalement, en moyenne là aussi, plutôt mieux que les hommes.
Bah, tout à fait, ça c'est pour le coup, c'est mon titre, c'est la domination masculine n'existe pas. C'est la domination masculine n'existe pas, telle qu'on croit qu'elle existe, et justement selon le point de vue où on se place, dans le sens où c'est très bien de dire que les hommes c'est les PDG, c'est les patrons, c'est les scientifiques, etc. Mais ça, c'est par rapport à la population masculine, c'est rien, c'est genre c'est 5%, et il y a une proportion bien plus forte d'hommes que de femmes qui sont SDF en prison, qui meurent très vite et de choses violentes. Et ça, est-ce que c'est une domination masculine? Je sais pas. Ou alors on dit que la domination masculine, les premières victimes, c'est les hommes. Mais après, c'est des problèmes de sémantique, quoi.
Comment est-ce que vous réagissez à ça, Florence?
Moi, j'ai eu un peu de mal avec votre titre et j'ai préféré le prendre avec humour parce que au quotidien, moi, la domination masculine, je la vois, par exemple, dans les salaires. Ça, c'est vraiment inadmissible que des hommes soient plus payés que des femmes à travail égal ou équivalent. Ou bien la violence, les viols, les innombrables agressions sexuelles, l'excision, les violences sur les enfants. Enfin, tant de choses qui prouvent l'évidence de la domination masculine dans notre monde. Par exemple, 2 millions de petites filles excisées chaque année dans le monde. Moi, ça m'empêche de dormir. Et c'est la preuve de la domination masculine.
Bah, je vous donne un contre-exemple. On dit que tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint. C'est très vrai, mais sur la même période, il y a 3 hommes.
Ça, c'est en France, je crois.
Oui, il y a 3 hommes qui meurent sous les coups d'un autre homme. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, quoi? La domination masculine, c'est pas ce... Qu'est-ce qu'on en fait, quoi?
Mais vous trouvez normal que dans le cadre du couple...
Mais évidemment, que non, je trouve pas ça normal.
Non, c'est pas normal. Donc, nous sommes bien d'accord. Ce n'est pas normal qu'il y ait tant de femmes qui meurent, et mourir, c'est la fin. Mais en général, c'est précédé par des années de violence. Oui. Comment est-ce possible que les hommes qui, en moyenne, sont plus grands, plus forts, que les femmes les cognent? C'est pas normal. Quand on se marie, on se doit protection. On se doit assistance. Et qu'est-ce qui se passe dans le cadre le plus intime? Les femmes sont battues, violées, tuées. Comment est-ce possible qu'on accepte ça en France ?
Peggy Sasse, quand vous dites la domination masculine n'existe pas, est-ce qu'il faut le comprendre comme la domination masculine n'existe pas en tant que projet concerté et comment dire assumé par les hommes? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire?
En fait, c'est plurisémique. C'est d'abord ce que vous dites, ce n'est pas un truc binaire, genre les hommes sont arrivés sur leur bateau sur le continent des femmes en disant maintenant on vous oppresse et vous êtes nos esclaves, alors que depuis le début de l'humanité et de l'histoire de la vie, le masculin est féminin et coexistant. Et le deuxième point principal, c'est que la domination masculine n'existe pas d'un point de vue darwinien. Dans le sens où darwinien, le point de vue darwinien, c'est on reproduit nos gènes ou pas. Et le fait est qu'il y a beaucoup d'études qui le prouvent, que globalement, les femmes s'en sortent mieux biologiquement que les hommes.
Elles s'en sortent mieux, c'est-à-dire qu'est-ce que ça précisément ça...
Bah que elles se sont matériellement plus reproduites que les hommes au cours de notre évolution.
Quoi ?
Oui.
J'ai du mal à comprendre. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que la domination...
Parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui meurent sans jamais se reproduire que les femmes.
Ouais, mais moi, je parle d'aujourd'hui et de ce que je connais, de l'histoire
des femmes.
Oui, mais
on vient de là.
Alors...
On est une espèce biologique.
Vous reconnais tout à fait votre compétence en biologie et pour l'évolution de l'humanité. Moi, je suis spécialiste du XXe siècle. Et qu'est-ce que je vois jusqu'à nos jours? Une domination masculine écrasante dont la manifestation... Enfin, je vais donner deux exemples. Les salaires plus élevés, c'est quand même, je le répète, parce que je m'étonne toujours qu'on ne descende pas dans la rue pour ça. À quoi servent les syndicats? Voilà une catégorie de la population qui est moins bien payée. Je vais juste un point d'histoire. Au siècle 19e siècle, une ouvrière était payée la moitié d'un ouvrier pour le même travail. C'est tout admis par tout le monde. En 1945, a été supprimée une disposition qui faisait qu'il y avait automatiquement un abattement pour salaire féminin de 10% dans la fonction publique notamment. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un instituteur et une institutrice, voilà des exemples de professions absolument égales, jusqu'en 1945, un abattement de 10%? Bon, ça c'est les salaires égaux. Et la deuxième chose dont on ne parle jamais, dont je voudrais vraiment qu'on parle, parce que c'est le plus important et sur quoi repose la domination masculine, c'est le partage inégal des responsabilités domestiques et des soins aux personnes dépendantes. En général, on dit des soins aux enfants, mais moi je vais généraliser. Les personnes dépendantes, c'est-à-dire les adultes, les vieillards, les parents du mari, par exemple, dont s'occupe la femme, tout ça prend un temps fou et c'est autant de temps et d'énergie en moins, puisque on considère dans notre pays, globalement en moyenne, bien sûr il y a des cas où ça va mieux, que 80% des travaux ménagers et des soins aux personnes dépendantes sont faits par les femmes. 80%! Mais quel handicap pour s'investir dans une carrière par exemple, ou tout simplement pour pas être fatiguée, ou tout simplement pour avoir une vie à soi. C'est ça la réalité de la vie aujourd'hui.
Est-ce que la lecture darwinienne peut permettre d'expliquer ces écarts-là, qui sont des écarts réels, que ce soit par rapport à la répartition des tâches domestiques, Peggy Sasse, ou que ce soit par rapport aux écarts de salaire?
Oui, bien sûr. Enfin, c'est que globalement, et en moyenne et en tendance, les hommes et les femmes ont quand même des différences au niveau de leurs intérêts. Et par exemple, quand on parle des tâches ménagères, ça aussi, souvent, c'est une question de critères, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va comptabiliser comme tâche? Donc les tâches ménagères, comme vous dites, les soins, etc. Mais les tâches ménagères, c'est aussi aller laver la voiture, faire du bricolage, sortir
c'est
le
tout
bois,
compris.
Etc.
C'est tout compris.
Non, ça pour le coup, non. Il y a des études très précises qui ont fait le listing de vraiment toutes les tâches du foyer et pas seulement ménagères. Et on tombe sur des chiffres beaucoup plus équivalents. Avec, il est vrai, les femmes toujours qui en font plus, mais ça reste du 55-60%. Quoi. C'est pas.
Oh, c'est bon, alors on va pas faire des batailles de chiffres. On est ici vraiment. On voit bien qui s'occupe des enfants, qui s'occupe des vieux parents, qui se lève de table pour aller chercher ce qu'il
manque. Justement, c'est ce que je dis. C'est une question de critères. Et qu'est-ce qu'on considère comme de la tâche?
Donc, les femmes en font beaucoup plus, puisqu'on considère traditionnellement que la maison est leur domaine. Et justement, l'égalité, c'est aussi de partager ça. De partager non seulement les tâches, mais la responsabilité mentale des tâches. Parce que s'il faut toujours réclamer « Ah, t'as pas nettoyé les toilettes et c'était ton tour. Ah, t'as pas fait ci et ça », c'est usant.
Oui, mais inversement, aujourd'hui, on voit des études qui montrent que, par exemple, les femmes ont beaucoup plus de, enfin, ont légèrement plus de pouvoir que les hommes au sein du foyer sur les décisions, par exemple, le budget qui va choisir, qui est l'allocation et l'allocation de l'argent, etc. Donc, on peut dire que c'est un pouvoir.
Peggy Sastre, vous expliquez dans votre livre que les écarts qui existent s'expliquent donc à partir de la grille de lecture qui est celle de la grille de lecture de l'évolution. Mmh. Donc, de
Darwin. Je ne dis pas qu'elle s'explique, je dis que ça c'est... comment dire
Si, vous dites qu'elle s'explique quand même, non?
Non, mais que c'est une explication parmi d'autres et que c'est une explication qu'on a trop souvent, qu'on a trop souvent minimisée, quoi.
Est-ce que ça, est-ce que vous considérez du coup qu'il faut laisser faire l'évolution? Ou est-ce que vous considérez que, par exemple, la loi peut justement apporter des correctifs? Il y a par exemple une loi l'an dernier pour l'égalité réelle pour les femmes et les hommes, avec tout un tas de mesures qui ont été prises, parité en politique, réforme du congé parental pour que l'homme prenne aussi à sa charge une partie du congé parental, réduction des écarts de salaire. Est-ce que la loi est là pour corriger, on va dire, les inégalités qui naîtraient de l'évolution de l'humanité?
Bien sûr, évidemment. Mais j'ai envie de dire qu'à la base, l'évolution, on évolue parce que nos organismes s'adaptent à des environnements et inversement, et les environnements nous font des pressions sélectives qui font qu'on évolue. Donc oui, moi je suis pas, je voudrais effacer un malentendu qu'on peut peut-être avoir avec mon livre ou ma pensée, c'est que je suis pas du tout fataliste, je suis pas du tout genre c'est l'évolution qui a voulu ça, donc c'est bien. C'est évidemment évidemment que la loi, enfin je veux dire le travail des enfants, ça a été c'était une loi, enfin il y a plein d'exemples comme ça, quoi.
Mais vous dites quoi, il y a un temps long et que ça ne peut pas se régler peut-être aussi rapidement que le souhaiteraient les féministes? Justement parce que...
ça peut se régler assez rapidement si on continue à avoir un environnement qui est prospère, qui nous fait vivre longtemps après la ménopause, qui nous fait vivre, on se vaccine et on meurt pas de maladies débiles tôt, etc., quoi.
Florence Moreno, dans son livre Peggy Sastre, dit à un moment donné, voilà, je sais bien que cette lecture darwiniste va faire qu'on va me reprocher une justification rétrograde d'un ordre établi. D'ailleurs, je suis allé sur Twitter et puis vous êtes pas mal critique aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui tweetent et qui disent vous donnez des arguments aux machos. Est-ce que vous considérez, vous Florence Moreno, que tenir ce genre de discours, ça revient aussi à justifier un ordre établi qui est un ordre dominé par les hommes?
Bon, je me mêlerai pas je connais pas ce sujet de l'évolution. Je voudrais juste dire qu'on est à un point historique extraordinaire en ce moment, au moins
j'explique,
en France, que toutes les lois sont passées. Toutes les lois que les féministes ont demandées avec tellement d'énergie, tellement d'ingéniosité, de toutes sortes de manières, polies ou pas polies, ça y est, maintenant nous avons toutes les lois. La dernière loi passée, c'est celle qui permet de donner son nom à son enfant pour une femme, que d'autres pays avaient déjà. Maintenant, ça y est. On peut considérer dans une certaine mesure que ce travail qui a duré environ 150 ans est terminé. Et maintenant, un détail, reste à les faire appliquer ces lois. Vous parliez à l'instant de la loi de 2014 sur l'égalité. Alors dans un an, on va faire le bilan de cette loi, parce qu'une loi, il y a des instruments de mesure après, pour voir si elle a été efficace. Et il faut aussi que les lois soient des instruments que nous nous en saisissions pour demander l'application. Par exemple, la loi sur les violences sexistes, la loi sur les insultes, elle est pas encore, il n'y a pas encore de jurisprudence.
Alors, je suis allé sur le site du gouvernement, d'ailleurs, ils disent, enfin, ils font pas un bilan du point de vue de l'application, mais ils font un bilan du point de vue des décrets qui ont été pris en disant, voilà, la plupart des décrets de cette loi ont été pris, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été tous à 100%.
Oui, c'est vraiment très long. Une loi, il y a deux sortes de lois, celles qui précèdent les mentalités, celles qui suivent les mentalités. Pour l'égalité, c'est plus compliqué parce que l'égalité, tout le monde est d'accord fondamentalement, bien sûr, c'est dans la devise. Mais le réel, c'est quoi le réel? Nous sommes dans une société de classe. La France est un pays de caste. La France, l'égalité, c'est un mot. Est-ce que nous vivons l'égalité en France? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que les personnes dans la rue, prises comme ça, se considèrent comme légales? Non, bien sûr que non.
On a mais là, finalement, vous rejoignez presque les arguments de Peggy Sastre au début de l'émission, qui disait la question de l'égalité, c'est pas juste l'égalité homme-femme, c'est aussi une question d'égalité pour l'ensemble du genre humain.
J'espère qu'on est globalement plus d'accord que pas d'accord.
Clair.
Je pense, pour résumer, on est assez différentes sur le diagnostic et les moyens pour arriver à nos fins. On a les mêmes fins, on veut l'égalité entre hommes et femmes dans la société.
Et bien sûr, l'égalité, c'est un concept absolu.
Oui, évidemment. Et j'allais dire, et pas seulement entre hommes et femmes, entre
c'est
tous les individus.
C'est l'antisexisme, ouais. C'est l'antiracisme, c'est la démarche féministe et globale. C'est une demande. En fait, le mot féministe n'a pas un sens clair. C'est une démarche humaniste.
Oui, tout
en
à fait.
Mais le mot a un sens historique qui date du XVIe siècle. Et donc, aujourd'hui, c'est plus difficile de l'employer. Mais les féministes, c'est quand même. C'est un beau mouvement, le féminisme, qui n'a jamais tué personne. Alors que le machisme tue tous les jours. Il tue, il blesse, il viole, il prostitue, il excise. C'est le machisme.
On va pas parler de la prostitution, parce que là, pour le coup, on va pas être d'accord.
Le machisme exerce toutes sortes de violences contre les femmes. Ces violences sont inadmissibles dans une société où nous devons protéger les faibles. Ou par exemple, les femmes enceintes, on devrait considérer qu'on les protège. Savez-vous qu'elles subissent parmi les catégories qui subissent le plus de violences?
Oui, ça, je l'explique dans mon livre. Pourquoi?
Bien sûr. Alors, tout ça est vraiment terrible. Et que faisons-nous contre ça?
Alors justement, les femmes enceintes sont celles qui subissent le plus de violences. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous, dans votre livre, Peggy Sass?
Ah, parce que principalement, la violence masculine contre les femmes, c'est une violence de jalousie. C'est-à-dire que c'est les hommes qui ont peur d'élever des enfants qui sont pas les leurs. Donc, quand ils sont jaloux et que leur femme est enceinte, ils ont peur que l'enfant ne soit pas d'eux. Donc, inconsciemment ou même des fois très consciemment, ils frappent parce qu'ils veulent se débarrasser de la preuve que la femme est allée pêcher, entre guillemets. Quoi.
Mais à partir de quelles données vous arrivez à avancer cette explication-là? Parce que ça me semble très étrange.
De tous les chercheurs qui travaillent là-dessus depuis à peu près 30 ans, principalement aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, et qu'en France, on fait mine de découvrir aujourd'hui.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, bon, l'analyse d'où ça vient, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'en Espagne, c'est un problème national? Pourquoi est-ce qu'il y a 1 million de femmes qui sont descendues dans la rue il y a un mois pour dire non à la violence machiste? Et pourquoi ici, ça soulève pas beaucoup d'indignation? C'est seulement les féministes qui s'énervent.
Parce que peut-être aussi qu'il faudrait que certaines féministes se remettent en question et que les moyens de lutte qu'elles adoptent sont peut-être pas plaisants. Quoi, je sais pas.
Moi, je crois que la violence est beaucoup trop tolérée. La violence contre les faibles, la violence contre les enfants. On est un pays où la violence contre les enfants est normale.
Oui, mais évidemment, mais vous luttez pas contre la violence contre les enfants en arrachant des pubs dans le métro.
Et alors?
Bah parce que c'est pas la même chose.
Et alors, c'est un système, comme vous le dites très justement. Tout ça fait système. La violence des images dans le métro. Est une...
Mais non, parce que c'est une violence pour vous, quoi.
C'est pas une violence pour vous.
Non, pour moi, non.
Pour nous, oui. Et nous.
Oui, mais vous pouvez pas imposer votre interprétation des choses à tout le monde. C'est comme pour le voile, c'est comme pour la prostitution. Ça, pour le coup, on va arriver dans des sujets très polémiques.
Mais moi, je n'impose pas, je discute. J'explique mon interprétation. Quand j'arrache une publicité.
Dites ça à la mère de la victime de Monomène Mera qui s'est fait siffler il y a 2 jours à l'Assemblée nationale par des socialistes qui ont considéré que son voile était contraire aux valeurs de je ne sais quoi.
Et c'était pas forcément une organisation féministe qui.
Yves Edroudi, qui est une figure très classique du féminisme, a dit que le voile était. Enfin, tout ce qu'on entend, que c'est. En étendard des djihadistes, etc. Quoi.
Sur ce sujet, d'ailleurs, je renvoie à la réécoute d'une émission qu'on a fait il y a quelques semaines, qu'on avait intitulée « Le voile est-il un frein à l'émancipation des femmes ?» Voilà, pour pas peut-être complètement réouvrir ce débat, d'autant que on est presque à la fin de l'émission. Florence Moreno, vous vouliez encore réagir?
Je pense que tout commence, tout est à faire. Il y a maintenant, les femmes ont en main leur avenir grâce à la contraception et à la possibilité d'avorter. Elles peuvent maintenant choisir leur destin. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Elles peuvent se penser seules, comme des individus, et non pas comme Madame Machin porte Jean Dupont. Et ça, c'est tout nouveau. C'est l'aboutissement de ce grand mouvement des Lumières du XVIIIe siècle qui a développé la notion d'individu, alors que dans d'autres pays, dans d'autres sociétés, c'est encore la notion de groupe qui prévaut et là, entre les jambes des femmes est l'honneur du groupe.
Oui, la famille,
dans
le
notre
clan.
Pays, ce n'est pas ça. Les femmes sont des individus. Les femmes peuvent se réaliser en tant que personnes. On n'a pas encore vu tout ce que les femmes pourront apporter au monde. Tous ces talents gâchés jusqu'à maintenant, toutes ces Marie Curie mortes en couche ou noyées dans l'eau de vaisselle, nous allons les voir arriver tous ces génies féminins qui ont manqué à l'humanité.
Peggy Sastre.
Ah, je suis absolument d'accord et ça me permettra de rebondir dans le sens où aujourd'hui c'est évident que les femmes ne sont plus les symboles des clans et des familles, etc. Mais ça serait bien aussi que les femmes, en tant qu'individus, ne soient pas les représentantes d'une espèce de dignité féminine métaphysique et qu'on voudrait appliquer à tout le monde. qu'importe les différences.
À la 18h55 sur France Culture, nous restons évidemment en compagnie de Florence Monreno et de Peggy Sastre et nous accueillons François Armanet. Bonsoir François.
Bonsoir.
De l'Obs, l'Obs avec qui nous sommes en partenariat chaque fin de semaine. François Armanet, responsable des pages débat de l'Obs. Avec, comme chaque semaine, un certain nombre de débats, et notamment celui-ci, faut-il avoir peur de l'état d'urgence ?
Oui, un débat bien actuel. Donc, on a réalisé un face-à-face entre l'un des meilleurs juristes, qui est Antoine Garapon.
Qu'on retrouve chaque semaine sur notre antenne, même si c'est de manière un peu plus brève qu'auparavant.
Absolument, et l'avocate Marie Dauzé. D'un côté, Garapon, en tout cas, pense que la menace terroriste peut justifier, en tout cas, quelques mesures d'exception. Marie Dauzé, elle, pointe surtout, en tout cas, les dérives de cet état d'urgence. Alors, Marie Dauzé, elle, de son côté, donc, est avocate pénaliste. Elle défend aussi un certain nombre de militants, dont des militants écologistes qui, aujourd'hui, à cause de cet état d'urgence, sont assignés à résidence. Donc là, elle peut en tout cas témoigner, souligner de manière très très claire que, puisqu'elle défend des musulmans radicaux d'un côté, mais aussi donc ces militants écologistes qui assignés à résidence sont en train de perdre leur travail aujourd'hui. Donc là, on voit bien très très concrètement où elle peut mesurer en tout cas les dégâts de l'état d'urgence. Garapon, de son côté, lui, pense qu'il peut y avoir des mesures exceptionnelles, qu'en tout cas le droit d'urgence, ça permet quand même d'être plus réactif, je le cite. C'est pas pour ça qu'il pense qu'il faut donner évidemment carte blanche ou donner en tout cas carte blanche à la police, et que l'augmentation en tout cas des pouvoirs de la police, elle doit aller de pair avec l'augmentation du contrôle dont celle-ci fait l'objet.
Donc ce qu'il dit, c'est qu'il faut pas forcément en avoir peur, mais il faut peut-être quand même s'en méfier un petit peu, en tout cas être attentif, quoi.
Pour Marie Dauzé, oui, c'est un aveu de faiblesse, l'état d'urgence, qui donne en fait raison à Daesh. Voilà, donc ça c'est d'un côté une position qu'on développe, et de l'autre côté, Garapon pense que l'état de droit et l'état d'exception doivent pas être opposés radicalement l'un à l'autre, que c'est pas le noir et le blanc, qu'il y a un dégradé qui permet en tout cas de mieux gérer la situation. Reste que la conclusion, c'est peut-être qu'une fois l'état d'urgence voté, ça va être très 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 compliqué pour quelque politique que ce soit, en tout cas de lever cet état d'urgence.
Parce et c'est d'ailleurs l'objet d'un point de vue complémentaire, qui est celui du juriste Patrick Vachemann.
Absolument. Qui prendra la responsabilité de lever l'état d'urgence 15 jours avant un éventuel attentat.
Florence Monreno, juste un mot, les femmes doivent-elles avoir peur de l'état d'urgence ? C'est-à-dire des situations exceptionnelles comme celle-là peuvent-elles se faire aussi au détriment du droit des femmes ?
C'est les droits des individus, là, c'est les droits de tout le monde. Non, il y a des situations tellement graves que pour une fois, je n'ai plus d'argument féministe. Là, c'est tellement grave, c'est une question de société, une question de monde.
Et c'est donc à lire donc ce débat, faut-il avoir peur de l'état d'urgence, François Armanet.
Eh bien donc dans l'Obs cette semaine, avec quelques autres pages bien frappées.
Voilà,
merci.
L'Obs qui fait sa une sur le FN aux portes du pouvoir, hashtag tout changer avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, je vous rappelle, les élections régionales, le second tour, c'est ce dimanche. On vous retrouve dans une semaine, je ne sais pas si ce sera vous, François Armanet, mais enfin, on retrouvera quelqu'un de l'Obs.
Quelqu'un de l'Obs ou quelqu'un de l'équipe des débats, absolument.
Merci beaucoup François, merci à vous Florence Monreno. Chaque matin, je me lève pour changer le monde et j'espère que chaque soir, vous vous couchez en n'étant pas trop désappointé.
En disant que ce n'est pas fini et que je me relèverai le lendemain.
voilà, c'est la bonne façon d'aborder ça. Livre donc a été publié aux éditions Erol, c'était l'an dernier. La domination masculine n'existe pas. Peggy Sastre aux éditions Anne Carrière, un livre qui a été publié il y a quelques jours de cela. Voilà, vous pouvez, comme chaque jour, nous faire part de vos commentaires, de vos réactions sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre, émission que vous pouvez réécouter pendant 1000 jours et télécharger pendant un an. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Cyril Baer, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Clément Daté. On se retrouve lundi à partir de 18h20 pour une émission que nous consacrerons au second tour des élections régionales, au lendemain des second tours. Donc, nous analyserons les différents résultats.